Cité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Radio Campus Grenoble, 90.8. Paul Tillier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir dans Microcité, votre émission hebdomadaire d'actualité et de débat. Au sommaire, cette semaine, on parle de la réforme des retraites, une réforme qui fait polémique. Des manifestations sont prévues partout en France le 5 décembre prochain. De son côté, le gouvernement campe sur ses positions. On va en débattre tout à l'heure dans le dossier du jour avec nos invités en studio. À suivre également dans notre émission un reportage au cœur des montagnes, Microcité est allé à la rencontre d'un maire qui se bat pour préserver le plus petit village de l'Isère. Vous êtes bien sur Radio Campus Grenoble 90.8, on est ensemble jusqu'à 17h, Microcité épisode 7, c'est parti. Il est tout juste 16h31 et c'est l'heure du journal avec Claire Guédon. Bonjour Claire.
Bonjour Paul. Marche pour le climat, mobilisation contre le Black Friday. Aujourd'hui, les luttes convergent dans toute la France. On fait le point avec notre envoyé spécial à Grenoble. La Banque alimentaire commence sa collecte de denrées aujourd'hui et jusqu'à dimanche. En Isère, l'association se concentre sur les aides aux étudiants précaires. Le Premier ministre irakien vient d'annoncer sa démission ce midi. Pourquoi et comment ? On y répond dans cette édition.
Le centre de Londres est complètement bouclé depuis 2 heures, Claire.
Oui, un homme vient d'être abattu par la police londonienne. Il a touché au moins 5 personnes à l'arme blanche. Le centre de Londres reste bloqué. La police appelle à la prudence. Aujourd'hui, et comme tous les vendredis, des jeunes militants marchent pour la planète. Mais aujourd'hui, c'est un peu particulier. C'est aussi le Black Friday, une journée où les magasins bradent leurs prix dans le monde entier. C'est l'occasion pour le mouvement Fridays for Future et l'UNL en Isère d'appeler à une mobilisation commune dans Grenoble. Pour eux, cette journée est un désastre écologique. Julia Beaufis, vous êtes sur place. Le cortège est parti à 15h du parc Paul Mistral et c'est un peu tendu depuis.
En effet, Claire, le cortège mené par plusieurs collectifs étudiants et lycéens s'est introduit dans la caserne de Beaune. Après quelques tensions à l'entrée avec le vigile, une partie du cortège a réussi à passer. Ils ont finalement été sortis par le service de sécurité. Mais les jeunes manifestants ont pu rester quelques minutes à l'intérieur du centre commercial, sous les yeux ébahis des passants. Et même quelques enseignes ont décidé de baisser leurs rideaux.
Et Julia, est-ce qu'on a une idée du profil de ces manifestants ?
Ben oui, bien sûr, Claire, ils sont lycéens ou étudiants, jeunes travailleurs ou en échange linguistique. Une seule motivation, protester et agir contre ces multinationales qui, en plus de vendre à perte lors des Black Friday, ne paient pas leurs impôts et polluent la planète. Il y a quelques instants, le cortège prenait la direction du cours Jean Jaurès avant d'en être empêché par une dizaine de CRS postés au bout de la rue au bureau. Pour l'instant, pas de violence à constater car le cortège se veut pacifiste. Ils ont choisi de rebrousser chemin et ils rejoignent maintenant la place Verdun.
Merci Julia Beaufis qui était sur place à Grenoble. Et demain, le mouvement Extinction Rébellion appelle à une absence de désobéissance civile non violente à Grenoble, toujours contre le Black Friday. Jeudi prochain, une grève générale contre la réforme des retraites menée par le gouvernement est prévue dans toute la France. À Grenoble, la lutte commence à s'organiser. Hier, syndicats et militants se sont réunis pour se coordonner. Baptiste fait partie du collectif Travail Social Isère. Pour lui, le plus important, c'est que la mobilisation soit massivement suivie.
On pensait qu'on allait être 10, au final on était plus de 50-60. Ce que ça démontre, c'est qu'il y a de la volonté pour organiser la grève générale. Parce que c'est pas simplement une grève et une grosse manifestation, c'est une attaque d'ampleur, une attaque qui est sans commune mesure. Aujourd'hui, on était un peu précarisés avec cette réforme des retraites. On va être précarisés toute notre vie et on pourra très certainement, pour la plupart d'entre nous qui sommes les plus jeunes, ne jamais toucher la retraite. Donc c'est un changement de société sans commune mesure. Et donc du coup, il faut une résistance sans commune mesure. Et la seule manière de gagner, c'est de bloquer le pays. C'est qu'on arrête toutes et tous de travailler, qu'on bloque l'économie et qu'on reprenne en main nos vies. Et donc le fait de se coordonner en interpro, en interorga, en inter tout ce qu'on veut, c'est le plus important et on travaille à ça.
Et on en reparlera dans quelques minutes avec notre dossier de la semaine consacré à cette réforme.
Le cardinal Barbarin se dit soulagé de la réquisition du parquet de Lyon. Ce midi, l'avocat général n'a pas demandé de condamnation dans son procès en appel. Depuis hier, il est rejugé pour avoir caché les abus sexuels et pédophiles du père Prénat dans les années 70. L'association Parole Libérée, partie civile dans le procès, se dit prête à se pouvoir en cassation si le tribunal ne condamne pas le cardinal Barbarin. Le jugement sera rendu le 30 janvier 2020. Il y aura 20 personnes sur le banc des accusés pour les attentats du 13 novembre 2015. En tout cas, c'est ce qu'a demandé le parquet national antiterroriste de Paris ce matin. Parmi eux, Salah Abdeslam, dernier survivant du commando d'attaque ce soir-là. C'est maintenant au juge d'instruction de décider des contours de ce procès qui se tiendra en 2021. Des professionnels du BTP bloquent des dépôts pétroliers au Mans et en Bretagne depuis ce matin. Ils protestent contre la suppression de l'avantage fiscal sur les prix du gasoil non routier qu'ils utilisent pour leurs engins. Pour les syndicats, cette décision représenterait une hausse de 45% des prix du litre. Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, la Banque alimentaire débute sa collecte nationale de denrées pour les plus démunis. À Grenoble, l'antenne iséroise s'engage dans la lutte contre la précarité étudiante avec la création d'une épicerie solidaire sur le campus. Adrien Beaujean a rencontré les acteurs du projet.
En partenariat avec le CROUS et les associations étudiantes du campus, la Banque alimentaire et son directeur Sylvain Géry ont décidé d'agir.
Vu les problématiques pérennes de précarité alimentaire des étudiants, on s'est dit quand même qu'il y avait sans doute quelque chose à faire. Il y a 65 000 étudiants sur Grenoble et son bassin. C'est entre 6 et 10 000 étudiants qui mangent mal ou qui ne mangent pas. Et ça nous dérange. La bonne idée, c'était de créer une épicerie pour une meilleure alimentation dans le monde étudiant, et parce qu'ils en ont vraiment besoin.
Pour bénéficier des services de cette épicerie solidaire, il faut remplir certains critères. Camille Davé, de l'Interasso Grenoble-Alpes.
On se base sur deux menus, deux prix de repas au CROUS, donc qui sont à 3,30 euros. Plus 1 euro de petit déjeuner, donc ça fait 7,60 euros fois 30 jours, donc à peu près 230 euros. Et s'il reste moins de 230 euros à l'étudiant, une fois qu'il a payé son loyer et ses charges, on peut avoir accès à l'épicerie. Pour l'instant, on ne sait vraiment pas combien de personnes viendront nous voir, mais en tout cas, on est là, quoi.
Pour les personnes concernées, un dossier est à remplir et à venir chercher auprès des associations étudiantes. Le CROUS a mis à disposition des locaux de 100 mètres carrés sur le campus, près de la résidence détaillée.
L'ouverture de l'épicerie solidaire est prévue pour janvier prochain. Le Premier ministre irakien annonce sa démission ce midi. Benoît Almeras, c'est l'aboutissement de près de 2 mois de contestations violentes en Irak.
Depuis début octobre, le pays est secoué par des manifestations monstres. Dans le viseur, l'incompétence des dirigeants irakiens, leur corruption, mais aussi le mauvais état des services publics. Les manifestants protestent aussi contre l'influence supposée de l'Iran sur le Premier ministre irakien Adel Abdelmehdi. Une influence mal vue en Irak. Les relations entre les deux voisins sont tendues depuis la guerre qui les a opposés dans les années 80. Alors pour se faire entendre, les manifestants bloquent les routes, font fermer les écoles et ont entamé une grève générale. La majeure partie de l'Irak est paralysée aujourd'hui. Le mouvement a été réprimé dans le sang, 400 morts depuis début octobre, dont une cinquantaine pour la seule journée d'hier. Une répression sanglante qui a poussé des leaders religieux irakiens à lâcher le gouvernement. L'issue était inévitable. À l'annonce de la démission du Premier ministre irakien, les manifestants ont explosé de joie à Bagdad.
On sait depuis ce midi quelles chaînes vont diffuser la Ligue des champions de football en 2021.
Oui, les droits ont été accordés à Canal+ et beIN Sport pour un montant record de 375 millions d'euros. TF1, elle, diffusera la finale. Et le grand perdant de cette année, c'est RMC Sport qui repart bredouille.
Merci beaucoup Claire pour ces informations. On vous retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres.
Microcité jusqu'à 17h.
Quelles vont être les conséquences de la réforme des retraites pour les Français? Qu'est-ce que contient ce plan sur les retraites? On en parle dans un instant avec Margot Siffert et nos invités en studio. We'll be right back. Et donc, on vient d'écouter, pardon, les Black Keys. C'était Shine a Little Bright Light. C'est extrait de leur dernier album, Let's Rock. Il est 16h42 sur Radio Campus.
Le dossier.
La grande mobilisation contre la réforme des retraites a lieu la semaine prochaine. Ce sera le jeudi 5 décembre et le climat est toujours très tendu entre l'exécutif et les syndicats. Margot Siffert, bonjour.
Bonjour Paul.
La grève va a priori être très suivie, mais le gouvernement semble déterminé à mener ce projet jusqu'au bout.
Tout à fait, Édouard Philippe l'a redit mercredi, il ne transigera pas sur l'instauration d'un nouveau système de retraite, jugé plus simple et plus juste pour tous. Mais à ce sujet, les interrogations se multiplient. Pourquoi réformer? Pourquoi maintenant? Le projet avancé par le haut-commissaire à la réforme des retraites est-il le bon? Pour en parler avec nous aujourd'hui, Camille Chaussinan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable communication auprès d'Olivier Véran, député La République En Marche de l'Isère. Et à côté de vous, il y a Nicolas Benoît, secrétaire général de la CGT Isère. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors, pour rappel, il y a actuellement en France 42 régimes qui gèrent les retraites avec des règles variables. En conséquence, l'âge de départ à la retraite, le calcul des pensions ou encore le montant des cotisations prélevées varient, selon qu'on soit salarié, fonctionnaire ou cheminot, par exemple. Mais avec la réforme qui se profile pour 2025, cela pourrait changer. Parmi les pistes évoquées par le gouvernement, il y a notamment la mise en place d'un système de retraite universel et par points, le calcul de la pension en fonction de la totalité de sa carrière ou encore l'instauration d'un âge pivot de départ à la retraite fixé à 64 ans. Cette dernière mesure vise d'ailleurs à inciter les Français à travailler plus longtemps. Et l'une des raisons, Benoît Almeiras, c'est que le problème des retraites, c'est aussi une question de démographie.
La population française a les cheveux qui blanchissent. Un Français sur quatre a plus de 60 ans selon l'INSEE. Aujourd'hui, notre pays compte 17 millions de retraités. C'est 10 millions de plus qu'il y a 30 ans. Une croissance accélérée par le départ à la retraite des baby-boomers nés entre 1950 et 1975. Plus de retraités, mais aussi des vies plus longues. Les Français ont en moyenne 27 années d'espérance de vie après leur sortie du marché du travail. En clair, les retraités touchent leur pension plus longtemps. Il faut donc plus de cotisations. Problème, le nombre de cotisants n'augmente pas assez vite. On en compte environ 140 pour 100 retraités. C'est un quart de moins qu'il y a 30 ans. Alors, pour maintenir le système sans réduire le montant des pensions, les gouvernements successifs tentent de repousser l'âge légal de la retraite, avec le risque de se mettre les syndicats à dos.
Alors Nicolas Benoît, je vais commencer par m'adresser à vous. On ne va pas se mentir, on vient de l'entendre, la question de la démographie rend nécessaire une réforme des retraites. Est-ce que vous entendez ces arguments ?
Alors une réforme, oui, c'est nécessaire, puisque aujourd'hui, avec les réformes paramétriques qui ont été menées depuis plus de 30 ans, effectivement, on a cassé aujourd'hui le pouvoir de vivre des retraités. En plus, il y a l'espérance de vie qui s'allonge. Mais néanmoins, il faut voir que l'espérance de vie en bonne santé, elle baisse, puisqu'aujourd'hui, les salariés en bonne santé partent à 64 ans en moyenne. Donc voilà, ça, c'est des éléments. Et 62 ans pour les hommes. Donc c'est des éléments à prendre en compte. Donc oui, une réforme est nécessaire, par contre, qui vise l'amélioration et non pas une contre-réforme régressive qui, sous couvert de vertu égalitaire, ferait baisser les pensions et casserait la solidarité.
Alors, notamment par rapport à l'égalité, donc là, un des arguments évoqués pour justifier cette réforme, c'est l'égalité entre les Français. Donc, 1 euro cotisé donnerait le même nombre de points à tout le monde dès le premier jour de travail. Et ces points seraient ensuite transformés en retraite au moment venu. Mais par contre, cela mettrait fin au calcul de la retraite selon les 25 meilleures années dans le privé ou les 6 derniers mois dans le public. Alors, est-ce que ça ne va pas justement avoir un impact négatif sur le montant des pensions, Camille Chaussinan ?
Non, pas du tout. Je pense qu'il y a notamment cette inégalité-là, mais il y a aussi l'inégalité femmes-hommes. Et l'objectif du gouvernement, c'est essayer de faire en sorte que ces inégalités-là soient gommées. Et ça, elle soit gommée par le haut. Aujourd'hui, on constate qu'il y a environ 40% d'écart entre une retraite chez un homme et une retraite chez une femme.
C'est 42% précisément.
C'est, ouais. c'est absolument intolérable. Il y a quelques jours, on a célébré la chute du mur de Berlin et on constate aujourd'hui que les murs qui nous séparent dans notre société sont quand même bien présents. Et ce sont les fruits des inégalités, notamment sociales et de nos conditions. Donc je pense que le gouvernement, avec cette réforme des retraites qui se préfigure, veut, en toute concertation avec les syndicats et les acteurs concernés, il veut essayer de tenter de faire une réforme universelle, une réforme égalitaire, une réforme responsable.
D'accord, mais du coup, ça prendrait plus forcément en compte les spécificités des métiers, la pénibilité ?
La pénibilité sera toujours prise en compte, bien évidemment. Donc c'est pour ça que c'est toujours délicat de faire une réforme des retraites, et on le sait très bien, on le voit à chaque fois qu'on parle d'une volonté de faire une réforme des retraites, que ce soit dans ce gouvernement-là ou dans les précédents gouvernements. Et ça, on pourra en débattre, bien évidemment, peut-être que ça n'a pas été fait dans les cordes, pas correctement. En tout cas, aujourd'hui, le fait est qu'il y a une énorme concertation qui est faite depuis quelques mois et qui va se poursuivre jusqu'au 9 et jusqu'au 9-10 décembre à peu près. Et on se rend compte qu'il faut absolument faire en sorte que l'évolution de notre système de retraite aille vers un système beaucoup plus égalitaire. Et je pense que le gouvernement l'a compris et essaye de le mettre en place.
D'accord. Et donc vous parlez de plus d'égalité. Donc Nicolas Benoît, j'imagine que vous êtes pas d'accord avec ça.
Bah, sous les aspects de bonne communication du camarade à côté, non, très clairement, le gouvernement, ça fait plus d'un an qu'il discute et qu'il discute avec les organisations syndicales. Elles s'appelleraient pas, elles seraient pas dans la rue si les négociations avaient pu se faire, des vraies négociations, et notamment sur l'aspect, comme ça a été évoqué, sur la question des femmes et la disparité des revenus. Et aujourd'hui, on en est là, effectivement, 40% de variables et 26% sur les salaires. Donc comment aujourd'hui, ces inégalités, elles sont réparées de suite dans le cadre du travail. Et là, ça ferait monter des cotisations, effectivement, pour payer aussi, pour permettre de payer nos futurs retraités. Donc ça, ce sont des mesures qu'on revendique. Hein, ça, aussi taxer le capital et de faire en sorte qu'on en arrête avec les exonérations sociales, de cotisations sociales. Donc voilà, si je prends simplement l'exemple du modèle suédois, le taux de remplacement, il était de 70 à 72% en 95. Ils ont mis en place la retraite par points. Aujourd'hui, c'est 60%. Donc les années de cotisation, c'est 47 ans. Donc les gens partent très tard en retraite, entre 67 et 68 ans. Et c'est ça la réforme. Donc on l'a étudié cette réforme. On ne peut pas rentrer en 12 minutes dans un système très complexe. Mais on sait très bien que les exemples qui sont posés vont faire abaisser les retraites. Sachant que, dernier point, tout de même, la France aujourd'hui, au niveau de la pauvreté, c'est la France qui s'en sort le mieux au niveau des retraités pauvres. Et je ne dis pas que c'est parfait, et je ne dis pas qu'il ne faut pas l'améliorer, mais pour ça, il faut que le gouvernement il entende, et pour ça, il va falloir que le 5, on soit largement mobilisé.
La différence entre le modèle suédois et le modèle français, tout justement, il est là, c'est que nous, on veut faire un modèle français qui correspond aux enjeux de notre société et aux enjeux de demain. Donc c'est bien pour ça qu'on va essayer de faire en sorte que cette réforme soit universelle et qu'elle ne soit pas uniforme. Donc on va s'adapter, bien évidemment, au parcours de métier, au parcours de vie de chacune et de chacun, pour s'adapter notamment à la pénibilité. Et aux accidents de vie qui peuvent survivre, qui peuvent arriver dans n'importe quel moment de la vie que l'on peut connaître.
Alors, juste pour revenir, vous parliez de l'âge de départ à la retraite. Donc là, l'âge légal serait fixé à 62 ans pour tous, mais il y aurait aussi l'instauration d'un âge pivot à 64 ans. Donc il y a Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire à la réforme des retraites, qui en parlait justement au micro de France 2 en juillet dernier. On va juste l'écouter.
Il y a déjà aujourd'hui un âge à taux plein plutôt vers 65 ans. Si vous démarrez à 23 ans ou à 22 ans, il vous faut partir à 64 ou à 65. Il y a donc déjà une diminution de votre pension si vous partez à 62 ans. Quel est l'avantage que nous proposons ? C'est qu'à partir de 64 ans, on permet à des gens qui sont en petite retraite, petit salaire, temps partiel, d'annuler la décote à partir de 64 ans. Nous avons très clairement dit, si vous partez à 62 ans, qui est la liberté de choix de chacun, il faut en même temps, si tout le monde part à 62 ans, le système est déséquilibré.
Donc on gagne moins à 62 ans, on gagne
voilà.
Taux plein
et donc
à 64
il faut
et plus
inviter
après.
Chacun à partir à 64 ans. Et plus vous travaillez, plus vous allongez votre départ à la retraite, plus votre retraite augmente.
Alors, cette notion d'âge pivot, Camille Chaussinant, c'est quand même pas très très clair. Est-ce que vous pouvez nous résumer cette notion de manière concrète ?
En fait, aujourd'hui, un Français, en moyenne, il prend sa retraite à 63,4 ans. Et on sait qu'il y a par exemple 20% des femmes qui prennent leur retraite à 67 ans pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Et ça, ce n'est plus possible, ce n'est plus équitable. Donc ce que dit M. Delevoye, c'est une simple recommandation de sa part. Je ne sais pas encore si le gouvernement va en prendre compte. Ça va bien évidemment résulter des discussions qu'il y a avec les syndicats et qui sont en cours et des discussions qui vont avoir lieu dans quelques jours encore. Il y aura une décision qui sera prise autour d'un âge pivot, potentiellement 64 ans, 62 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose qui reste figé dans le marbre, encore une fois. Quelque chose qui puisse s'adapter aux conditions de vie que l'on a pu connaître tout au long de notre parcours.
Alors justement, cet âge pivot, pour l'instant fixé à 64 ans, pourrait évoluer en fonction de l'espérance de vie. Mais l'espérance de vie, ce n'est pas quelque chose d'égalitaire, c'est-à-dire que ça dépend de notre niveau de vie, de revenus, de travail.
Exactement.
Est-ce que donc c'est une bonne chose que de l'adapter justement à cette espérance de vie ?
Bah parce qu'il faut qu'en parallèle, il y ait des choses qui soient faites, qui soient mises sur la table pour faire en sorte que nos conditions sociales que l'on connaît quand on est dans ce pays ne puissent pas être les mêmes quand on arrive à notre fin de vie. Donc je pense que ce gouvernement-là reste cohérent à partir du moment où il fait aussi des actions sociales pour lutter contre la pauvreté, pour lutter contre l'enclave de certaines personnes dans un milieu social et qui ne peuvent pas s'en sortir. Et à partir du moment où on arrivera à faire en sorte que chacune et chacun puisse s'émanciper de sa condition sociale, on arrivera à pouvoir assimiler ces critères-là.
Et notamment par rapport à la pauvreté, avec la nouvelle réforme, un minimum retraite serait garanti pour tous. Enfin, pour tous ceux ayant eu des carrières à revenus modestes, il s'élèverait à 85% du SMIC net contre 81% actuellement. Voilà, tout à fait. Est-ce que c'est pas suffisant pour vous, Nicolas Benoît? C'est pas une mesure qui va dans le bon sens?
Je sais pas, vous avez essayé de vivre avec 1 000 euros par mois? C'est un peu compliqué quand il faut payer le logement, etc. etc. Soyons sérieux, Delevoye nous parle de l'âge de départ, mais aujourd'hui, pour beaucoup, les salariés, ils sont 50% à partir à 60 ans. Alors, pas forcément à la retraite, mais ils sont en inactivité du fait de maladies professionnelles, du fait de fatigue, etc. Donc, corrigeons cela. Et ça, on peut le faire. Le gouvernement en a les moyens financiers, hein, je l'ai évoqué tout
mais
à l'heure.
Des points, là, avec la nouvelle réforme, seraient notamment attribués justement pour toute période, pour période travaillée, pour
l'inactivité, etc. Les points ne corrigent pas les inégalités. C'est-à-dire que demain, vous avez du chômage dans votre vie, vous avez aujourd'hui vous avez de la maladie ou même pour les femmes qui prendraient des congés parentalité, tous ces points, aujourd'hui, il n'y a rien qui est identifié comme quoi ils seraient pris en compte.
Donc il n'y a pas les
corrections d'inégalités aujourd'hui dans les propositions qui sont faites à travers le rapport Delevoye. Donc voilà, on va être clair, on ne va pas spéculer non plus.
Non mais le rapport Delevoye est une base qui tend à évoluer avec les discussions que le gouvernement a avec vous.
Sauf que ça marche pas, des discussions, il y en a eu, effectivement c'est des discussions, on nous écoute gentiment, sauf qu'à aucun moment donné les revendications elles sont reprises en compte.
On n'a que 10 décembre pour
réfléchir. Oui, on verra le 5, on verra le 6 et on verra les jours qui suivent.
C'est sûr que si on commence à dire que la finalité de la réforme est mauvaise alors même qu'elle est tombée.
Mais on sait qu'elle est mauvaise.
Ah oui, c'est sûr que si on part de ce principe là,
on a étudié.
Je pense qu'il faut qu'on sorte honnêtement en France, excusez-moi,
qu'on sorte, on a cité tout à l'heure le modèle manichéen.
Tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Vous n'êtes pas les gentils.
J'ai bien compris que vous étiez bon en communication. Le problème, ce n'est pas une bataille de chiffres. C'est que sur le fond, ce système, il casse tout. Et l'idée, c'est de récupérer un certain nombre de milliards pour les donner aussi, aux banques et aussi
plus d'éléments à la capitalisation. Que la plupart de tous les Français, parce que je vous avoue que pour l'instant...
On travaille dessus, je suis désolé.
Nous aussi, excusez-moi. Quand vous allez à Matignon...
La CGT travaille dessus avec des organisations syndicales de jeunesse et de travailleurs.
Le débat est
ouvert. On est formellement opposés, y compris on est rejoint aussi par la CGC.
Ne vous inquiétez pas,
même les cadres aujourd'hui, ils voient qu'il y a une problématique, c'est qu'à un moment donné, il faut peut-être que vous regardiez le problème.
Donc pour vous, Nicolas Benoît, toutes les professions vont être impactées?
Aujourd'hui, toutes les professions sont impactées. Tout le monde au même niveau, c'est un changement systémique de notre système.
Oui, mais toutes les professions sont impactées. Quand on prend l'exemple de deux agriculteurs dont le monsieur vit avec 800 euros par mois, c'est passé hier dans un envoyé spécial, je vous conseille de regarder le replay qui est assez intéressant, et la femme de ce monsieur qui vit avec 400 euros par mois, ça fait 1200 euros à deux. À partir du moment où nous on veut quelque chose d'universel et qu'on se dit qu'on aura un minimum vieillesse qui s'élève à 1000 euros chacun, il y a quand même une différence qui est juste énorme.
Mais vous n'allez pas le corriger ça.
Et pourquoi on ne va pas le corriger?
Parce que vous allez baisser tout le monde.
Non, bien sûr que non.
S'il y a un cadre spécifique à regarder aujourd'hui
sur un régime bien spécifique,
et là, moi, je vous dis, justement, sur la question des agriculteurs, regardez de près et faites en sorte d'améliorer. C'est vous qui êtes aux manettes au gouvernement. Donc faites en sorte d'améliorer aujourd'hui les problématiques.
Croyez-moi, on travaille pour aller à la messe. Il faut un minimum de confiance et de concertation. La concertation, on l'a fait. La réforme sera progressive avec beaucoup de temps. Et je vous assure qu'on écoute énormément.
La confiance, vous aviez les étudiants dans la rue et vous les avez encore aujourd'hui sur tout un tas de questions, sur les enjeux climatiques, sur la question aujourd'hui de la précarité, etc. Vous avez les agriculteurs dans la rue. Je pense que plus personne ne vous fait confiance. À un moment donné, écoutez les gens et faites en sorte de prendre les bonnes mesures.
Les gens les écoutent, ne vous inquiétez pas. Ces réformes qui vont être prises sont progressives.
C'est sûr que vous écoutez. Aujourd'hui, le président des riches, je ne suis pas sûr qu'il...
Je vais devoir vous couper, je suis désolé. Je sais que 12 minutes, c'est extrêmement court pour aborder tous ces points. Mais bon, je pense que le message, il est quand même passé. Nicolas Benoît, je le rappelle, vous êtes secrétaire général de la CGT Isère. Et ben, vous souhaitez une réforme. Pas celle-là, pas celle qui est proposée par le gouvernement, mais vous souhaitez quand même une réforme des retraites, pardon. Et vous, Camille Chaussinant, vous êtes responsable de communication auprès du député La République En Marche, Olivier Véran. Et donc, ce que vous nous avez expliqué, c'est que vous travaillez, vous essayez d'écouter ce qui se dit aussi. Voilà, vous voulez entendre ce qui va être dit le 5 décembre. Ben, quant à nous, Margot, pardon, je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Paul.
Microcité sur Campus Grenoble, 90.8.
Les plus petits villages vont-ils être rayés de la carte? Pour certains, c'est un oui, il le faut, c'est même nécessaire. D'autres le regrettent. Stéphane Girard se situe plutôt dans cette deuxième catégorie. Il est le maire d'Oul, la commune iséroise qui compte le moins d'habitants. Ils ne sont même pas assez pour monter une équipe de rugby, seulement 14 personnes qui y vivent à l'année. Alors Antoine Lastron, ce maire achève son premier mandat et il se bat pour préserver son village, niché au cœur du massif de Loisans.
Pour atteindre Hull, mieux vaut ne pas être pressé d'abord. Il faut enchaîner les virages en épingle à cheveux, prier pour ne pas croiser une autre voiture. De toute façon, la route ne permet pas. Et puis on arrive à 1400 mètres d'altitude. D'un côté, des sommets enneigés. De l'autre, une vaste vue sur le massif montagneux. Ici, on n'entend que le silence, troublé par les ruisseaux qui coulent autour du village. Pour Stéphane Girard, les avantages à Hull sont...
Le cadre et le calme. Et puis le prix, parce que Hull, c'est pas cher.
Des maisons en pierre avec des toits en tôle. Par-ci, par-là, la fumée qui s'échappe des cheminées aide à déterminer les logements habités et ceux abandonnés ou à vendre. Une seule route traverse le village. Sinon, c'est tout à pied dans des chemins en herbe.
Un village qui dormait depuis longtemps.
Alors, Stéphane Girard a voulu redynamiser le village en lançant de nombreux projets. Objectif, attirer des habitants, mais toujours en jonglant avec les moyens du bord.
De 2008 à 2020, là, la dotation de l'État s'était divisée quasiment par deux. Pour une commune comme Hull, on a difficilement 50 000 euros de budget par an. On a des communes comme Vaujany ou l'Alpe d'Huez qui tournent à plus de 20 millions, 30 millions.
Le maire compte alors beaucoup sur les subventions. Départements et régions ont financé la construction d'un gîte l'année dernière. Mais en les attendant, la commune doit toujours puiser sur ses réserves.
On les touche une fois qu'on a payé. Donc il y a toujours un décalage, donc c'est pas facile. On a beaucoup d'argent dehors. On va être obligé de faire un prêt pour fonctionner. En attendant que l'argent qui est dehors rentre. C'est un peu dommage.
Pour l'entretien quotidien du village, tout se fait avec les mains volontaires. Mais pour les gros travaux, la communauté de communes de Loisans propose son aide.
Il y a un planning, entre 2 et 4 personnes, ça dépend des saisons. Quand on a besoin, on les fait venir.
Stéphane Girard a cependant réussi son pari. Le village a gagné 10 habitants en 6 ans. Objectif, atteindre les 50 un jour. Un impératif pour garder certains services, comme par exemple le déneigement des routes. Mais pour y parvenir, il faut que les finances suivent.
Le jour où les petites communes se rendent complètement asphyxiées financièrement, ben elles n'existeront plus, et puis voilà.
Vous avez peur que ça arrive ?
Ça arrivera, ça arrivera. C'est pas en 2020, mais ça arrivera. Ça, c'est dans l'air du temps, de toute façon. C'est pas forcément une bonne chose. C'est de la démagogie, on est content, on va supprimer les petites communes, on va faire des économies, mais c'est... Une commune comme Hull, elle coûte moins cher qu'un député.
Pour Stéphane Girard, s'occuper de la commune, c'est 2 heures tous les jours à la mairie. Il faut demander des subventions, gérer l'état civil, et ce, en plus de son activité professionnelle de maraîcher. Alors même s'il avoue avoir hésité, il va se représenter en 2020. Il lui manque encore 2 colistiers pour finaliser sa liste. En attendant, il a un dernier vœu à adresser à l'État.
J'attends qu'on nous laisse tranquille.
Et à ce propos, l'Assemblée nationale a adopté cette semaine un texte qui renforce le rôle des maires et augmente leur indemnité de fonction. Le texte doit encore passer par le Sénat pour être validé. Il est 16h59, l'heure du rappel des titres avec vous, Claire Guédon.
Une attaque à l'arme blanche bloque le centre de Londres depuis plus d'une heure. Un homme aurait attaqué au moins 5 personnes à l'arme blanche sur le London Bridge. Il a été abattu par la police. Par précaution, elle considère l'incident comme terroriste. Des mobilisations ont lieu dans toute la France pour le climat, mais aussi contre le Black Friday depuis ce midi. À Grenoble, le cortège d'une centaine de personnes se dirige vers la place Verdun après des tensions avec les CRS.
Merci beaucoup Claire et bon week-end. Il est 17h tout juste, notre émission touche à sa fin. La technique aujourd'hui, c'était Louis Oscovin et Benoît Almeiras. Vous pouvez nous réécouter cette émission en podcast sur le site Radio Campus Grenoble. Je vous souhaite un bon week-end à tous et je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien.